Comment l'imitation devient-elle violente? Lorsque nous nous représentons l'acte d'imiter, nous avons toujours l'impression qu'il s'agit non seulement d'un acte secondaire, mais d'un acte positif. En effet, si nous reproduisons quelque chose, et c'est le paradoxe de l'imitation, c'est qu'elle produit quelque chose, mais par rapport à quelque chose de précédent ou à quelque chose déjà donné en face de nous, si nous reproduisons quelque chose, c'est d'abord parce que nous l'admirons. Même Platon, qui critiquait l'imitation, voyez bien quand même dans l'imitation, d'abord l'imitation d'un modèle. Et ce terme de modèle a évidemment quelque chose de positif. Nous voulons reproduire ce qu'il y a de bien. Et dans les pratiques morales, sociales, politiques, nous pensons d'abord l'imitation par rapport à celui ou celle que nous admirons. Il y a des role models, comme on dit aux États-Unis, et la publicité d'ailleurs cherche à nous donner des modèles positifs dont nous inspirons, dont nous cherchons à imiter tout ce qui nous paraît bien. Et il peut y avoir un danger là-dedans, mais peut-être pas de violence fondamentale. Et l'imitation semble donc même être quelque chose de positif. Peut-être ne nous trompons pas de modèle, imitons plutôt les gentils que les méchants, imitons plutôt les gens bien que les gens criminels, mais au fond, il n'y aurait pas de problème avec l'imitation elle-même. Or, il semble bien que rendre l'imitation en tant que telle neutre ou même positive consiste à se masquer ce qui est au cœur de l'imitation elle-même, entre les humains au moins, qui est sa part indestructible de violence. Cette violence mimétique est au cœur d'une grande œuvre du XXe siècle, celle de René Girard, qui a même fait de ce concept la violence mimétique, le cœur de sa théorie de la violence en général et de la guerre, avec des rivaux, la rivalité qui monte aux extrêmes et qui expliquerait par exemple les mécanismes de guerre et de conflit entre les humains, y compris évidemment au niveau politique que nous revivons sans cesse aujourd'hui encore. Mais quel est le mécanisme de cette violence mimétique, du fait que la mimésis peut devenir une violence? Pour René Girard, c'est très simple, c'est quand il s'y mêle le désir. C'est quand nous nous rivalisons, quand nous imitons non seulement un comportement d'autrui, une apparence d'autrui, mais le désir d'autrui pour un objet commun. Alors c'est cette rivalité des désirs, c'est cette mimésis du désir, c'est le concept de désir qui fait le lien entre l'imitation et la violence. Je cite un passage magistral de la violence et le sacré. Deux désirs qui convergent sur le même objet se font mutuellement obstacle. Toute mimésis, écrit René Girard, portant sur le désir, débouche automatiquement sur le conflit. Les hommes sont toujours partiellement aveugles à cette cause de la rivalité. Le même, le semblable évoque une idée d'harmonie. Mais que se passera-t-il si nous avons vraiment les mêmes désirs? Seuls quelques grands écrivains se sont intéressés à ce type de rivalité. Ainsi, l'imitation devient violence quand elle construit la concurrence, la rivalité entre les humains pour un même objet. Elle peut alors mener à la destruction totale. Et selon René Girard, c'est une partie peut-être plus discutable de son analyse, selon René Girard, pour en sortir, il faut que cette violence se dirige de façon commune vers un tiers, contre un tiers, c'est ce qu'il appelle le bouc émissaire. Ainsi, la violence engendrée par l'imitation du désir de l'autre n'aurait pas d'issue en elle-même, et il aurait pour seule issue le fait de se déporter vers un tiers ou contre un tiers, ou au contraire, dans une forme de révélation morale, d'écouter un maître qui nous détourne de cette guerre des désirs mimétiques. Mais peut-être y a-t-il une autre solution? Peut-être malgré tout, le désir d'imiter un modèle positif est-il aussi une issue positive à la violence tragique contenue dans l'imitation elle-même?